soir, la société canadienne Bonneau, exploitant l'or dans la province du Maniema, a annoncé samedi dernier la suspension de ses activités pour des raisons sécuritaires. L'entreprise aurifère accuse les chefs rebelles Cheikh Hassani et les miliciens Mai Mai d'avoir pris le contrôle de la mine et émis des menaces de mort formelles à l'encontre de tout employé qui se présenterait au travail. Réagissant à la décision de Bonneau, le gouverneur du Maniema déplore le fait que plusieurs Congolais vont aller en chômage. Il promet de négocier avec la firme canadienne pour une éventuelle reprise des activités. Quelle est-il faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 1er octobre 2019. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Augustin Moussafiri, gouverneur de la province du Maniema. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Bonsoir.
Olive Mundekereza, député national et ancien président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Sud Kivu. Monsieur Mundekereza, bonsoir.
Bonsoir.
Et Franck Fwamba, fondateur et directeur général de la revue Mining News. Il est cofondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement. Il est aussi coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Monsieur Franck Fwamba, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir Radio Kati.
Les auditeurs sont nombreux à nous envoyer les réactions. C'est le cas de Benny Mouawa qui dit ceci. La sécurité fait partie des éléments attractifs des investisseurs étrangers. L'exécutif provincial du Maniema est dans l'obligation d'assurer pleinement son rôle régalien afin que l'emploi de nos frères du Maniema ne soit pas compromis. Merci de nous suivre à Kindu dans la province du Maniema sous la 103.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookati.com. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Je l'ai dit, la société canadienne Monroe, exploitant de l'or dans la province du Maniema, a annoncé samedi 28 septembre dernier la suspension de ses activités pour des raisons sécuritaires. L'entreprise aurifère accuse le chef rebelle Cheikh Hassani et les miliciens Mai Mai d'avoir pris le contrôle de la mine et émis des menaces de mort formelles à l'encontre de tout employé qui se présenterait au travail. Et dans une lettre de son directeur général, Brett Richard, adressée à l'inspection générale du travail, l'entreprise informe que toutes les opérations et les contrats de tous les employés sont suspendus. Julien Niamouni nous en dit plus.
Quatre filiales du groupe Bonneau sont concernées par cette décision. Il s'agit des filiales de Namoya, Lugushwa, Kamitougaï et Bonneau Congo. Raison avancée, l'insécurité qui sévit dans toutes ces régions. Première conséquence de cette mesure annoncée par le directeur général du groupe, Brett Richard, toutes les opérations du groupe et tous les contrats des employés sont suspendus. La direction estime que les sérieuses et incessantes préoccupations sécuritaires observées à Namoya seraient à l'origine de la décision, notamment le harcèlement et le raid mené par les Mai Mai sur les lignes d'approvisionnement, explique la direction dans sa correspondance. Pour rappel, le 26 juillet dernier, quatre employés de Bonneau, dont un Sud-Africain, un Zimbabwéen et deux Congolais, ont été enlevés. Malgré la signature d'un accord entre le chef de la milice, Cheikh Hassani, et le groupe, ces derniers ne cessent de menacer les employés. La société civile déplore cette situation qui prive les Congolais de emplois dans la région.
Merci Julien Niamouini. Le président du Sénat, Alexis Tambwe-Mwamba, en séjour à Kindu, suggère de réunir autour d'une même table la notabilité de la province, les chefs coutumiers, la société Bonneau et les représentants de la communauté pour trouver une solution à ce problème. Le président du Sénat estime que cette mesure porte préjudice non seulement à la province du Maniema, mais aussi et surtout à des milliers de familles qui vont se retrouver sans ressources. Alexis Tambwe-Mwamba est au micro de Christian Mapendano.
Je connais ce dossier. Je considère que la décision qui a été prise par Bonneau de suspendre ses activités va certainement porter un préjudice énorme, non seulement à la province, mais plus particulièrement au territoire des Kabambaré. Ma suggestion sera de réunir rapidement, soit à Kindu, soit à Kabambaré, les différents notables de la province, les chefs coutumiers, les éléments qui sont aujourd'hui sur le site, ainsi que les représentants des banderaux pour essayer de trouver une solution. Parce que si on ne trouve pas une solution, ça veut dire que sur les sites de Namoya, il y a plusieurs milliers de pères de famille et d'enfants qui vont se retrouver sans ressources.
Augustin Moussafiri, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Maniema. La société Bonro suspend ses activités dans votre province suite à la situation sécuritaire très préoccupante. Comment vous expliquez cette situation, monsieur le gouverneur?
Franchement, je suis un peu inquiet parce que la suspension de la société Namoya va entraîner beaucoup de problèmes dans ma province. Et en plus, ça va entraîner beaucoup de chômage. Et c'est pourquoi je suis inquiet, mais on peut donner la peine de négocier encore avec la société et négocier avec la population pour nous permettre la reprise dans les un bref délai, pour nous permettre à ce que la population soit en mesure de faire face à la situation humanitaire en général.
Alors, l'entreprise accuse les chefs rebelles Cheikh Hassani et les miliciens Mai Mai d'avoir pris le contrôle de la mine et mis des menaces de mort formelles à l'encontre de tout employé qui s'est présenté au travail. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation?
Je suis au courant, mais ce n'est pas de cette façon où ça s'est passé. C'est-à-dire, c'est la population, on parle pas seulement du Cheikh, et la population tenait à ce qu'ils aillent tous à la montagne pour creuser de l'or, comme ils appellent généralement notre Moulima. Alors, et la population, on accuse seulement par les chefs, mais c'est toute la population qui tenait à aller, mais comme c'était pas organisé et la société était en insécurité, c'était normal qu'ils puissent réagir comme ça parce qu'ils se sont retrouvés en insécurité où ils ne savaient pas comment gérer toute cette population-là. Et c'est ce qui fait que ils se sont décidés de suspendre. Les activités.
Alors, la société s'est retrouvée en sécurité. Vous étiez au courant de la situation. Qu'est-ce que vous, au niveau provincial, vous avez fait pour sécuriser cette société?
Effectivement, il y a des militaires qui sont sur place pour sécuriser la société et nous avons pris quelques dispositions sécuritaires, mais c'était normal que nos frères de la société Bandou puissent avoir peur parce que, comme à peine on venait où il y avait des captivité de d'autres personnes, où il y avait des Sud-Africains, des Zimbabwéens, et après qu'on a récupéré des Zimbabwéens et des Sud-Africains, et ils se sont vus menacés encore, c'est pourquoi ils ont pris cette décision-là. Mais je crois que d'ici quelques jours, on trouvera une solution définitive.
Alors, vous dites que ce n'est pas seulement les rebelles chez qui met en sécurité hein, la société, mais il y a aussi la population. Au niveau provincial, on n'a pas sensibilisé cette population sur les risques ou les conséquences que pourrait avoir la fermeture ou la suspension des activités de cette entreprise dans la province?
Non, la population, le problème, c'était d'aller creuser, d'aller faire le travail artisanal. C'est pourquoi le jour où j'étais là, où j'avais fait le meeting, vous allez voir, il y avait des milliers de la population qui tenaient, il n'y a pas de travail. Et pour la population, c'est le seul travail qui pouvait aller pour avoir un peu d'or pour vendre. Et la population tenait à ce de rentrer une fois de plus pour aller travailler. Et maintenant, après, il y avait aussi, c'est vrai, il y avait les miliciens qui sont venus aussi parce qu'ils tenaient aussi. Et c'est pourquoi les miliciens veulent se rendre parce qu'ils ne veulent plus rester en brousse, ils veulent vraiment travailler. Pour eux, il fallait qu'on organise les choses pour qu'ils travaillent, qu'ils puissent commencer à creuser d'une façon artisanale aussi.
Alors, quelles sont les dispositions prises au niveau de la province, justement, pour essayer de mettre d'accord les deux parties, c'est-à-dire la population et la société? Qu'est-ce que vous avez fait au niveau de la province? Est-ce que cette situation aurait pu être évitée?
Oui, mais c'est la population qui était un peu pressée parce que la société n'avait plus de problème pour la population et ils étaient pressés. Et nous, on tenait à recenser d'abord tout le monde. Nous, on a donné comme condition que tout le monde, celui qui veut aller travailler de l'autre côté, il doit d'abord te recenser, on doit savoir qui va là-bas et on avait exigé que tout le monde qui va aller creuser, qui doit aller faire le travail artisanal, ne doit pas avoir une arme. Alors c'était ça la condition qu'on avait posée. Et on devait d'abord recenser, on ne devait pas envoyer les gens là-bas avec des armes. Alors on ne voulait avoir personne avec arme, à part des militaires ou la police qui pouvait avoir une arme.
Et ceux qui sont allés pour creuser étaient armés, c'est ça, monsieur le gouverneur?
Non, ils ne sont pas allés creuser, parce que jusque-là, ils n'avaient pas eu la chance de creuser. Mais eux, les miliciens voulaient venir avec des armes et la population sans armes. C'est ce qui fait que nous, on ne voulait pas que les miliciens viennent avec des armes. Et c'est pourquoi il fallait que les miliciens puissent se rendre d'abord et qu'on puisse les recenser, que tout le monde puisse aller faire maintenant son travail.
Vous vous êtes retrouvé impuissant face, parce que vous dites que la population était pressée. Et donc, on peut dire que le gouvernement provincial se retrouvait impuissant face à cette population qui était pressée?
Non, on n'était pas impuissant. C'est-à-dire qu'on faisait encore le recensement parce que pour le gouvernement provincial, on doit d'abord recenser qui est qui et savoir qui va monter là-bas pour faire le travail artisanal. On doit connaître, parce que tout le monde ne peut pas aller comme ça. Et puis, compte tenu des nombres de la population, on devait organiser pour qu'il y ait un horaire bien défini pour dire chaque peut-être lundi, c'est tel groupe qui pourra aller, mardi, mercredi, parce que il y a la population est tellement nombreuse que si on demande à tout le monde d'aller, il n'y aura même plus de place. Et c'était ça notre façon de parler avec Saïma Poé.
Alors cette situation ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait quand même longtemps que cette entreprise est menacée par les miliciens. Le 26 juillet, 4 employés de cette entreprise avaient été enlevés à Salamabila dans la province du Maniema et on a contraint l'entreprise à signer un protocole avec les rebelles pour pouvoir, avant de libérer les travailleurs de Bonro.
Non, sincèrement, les rebelles n'avaient pas exigé à l'entreprise de signer d'abord l'accord avant. Mais les trois otages avant, on les avait récupérés sans problème. Et c'est seulement quand on est arrivé au dernier otage, ils voulaient seulement vérifier est-ce qu'ils auraient accès. Et l'entreprise Bandro, c'est vrai, l'entreprise Bandro, ils ont bien coopéré, ils nous ont donné une partie, soi-disant que la population peut venir accéder à cette partie pour faire le travail, etc. Ça, c'est vrai, c'est ça. Moi, j'étais sur place. Et c'est ce qui était fait avec l'entreprise Bandou. Alors, ils n'étaient pas menacés pour ça. C'est vrai, pour avoir les derniers otages, ça nous a pris au moins 2 semaines. On avait fait 2 voyages. C'est parce que pour eux, c'était une façon de nous faire une petite pression. Mais ce n'était pas l'exigence pour dire qu'avant de libérer, on doit d'abord signer. On a fait beaucoup de va-et-vient. Mais après, ils ont dû libérer l'otage sud-africain. Et quand on a signé les accords, c'est parce qu'on voulait respecter les accords. Et puis, comme on a suivi les mots d'ordre du président de la République, il ne veut pas que le sang des Congolais puisse couler, parce que notre armée est à mesure d'évacuer tous ces maïmaï. Mais le chef d'État disait que le sang des Congolais a beaucoup coulé, il ne veut plus qu'on négocie avec les Congolais, qu'on négocie avec nos frères, et que nous sommes arrivés à ça.
On a l'impression, monsieur le gouverneur, que les miliciens se promènent librement dans votre province, quoi.
Non, pas se promènent librement, parce que là où je vous parle, ils ne sont même pas en ville, ils sont en brousse, comme ils ont l'habitude de rester en brousse. Pour eux, maintenant, ils veulent se rendre et rendre leurs armes.
Merci.
Rendre leurs armes et aller travailler comme tout le monde.
Merci, monsieur le gouverneur. Olive Moudé-Kereza, vous êtes député national et ancien président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Sud, comment vous analysez-vous cette situation du Maniema avec la société Bonro qui suspend ses activités?
C'est pas seulement le Maniema, je dis le Grand Kivu. Je voilà. Dirais même pas le Grand Kivu, c'est en commençant par le Tanganyika, Kalemi, Nord Kivu, Sud Kivu, le Maniema. C'est la région qui regorge toute la richesse, je dirais une grande partie de la richesse de la RDC. Et c'est la richesse minière et agricole. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'a dit le président du Sénat et les gouverneurs. Il faut qu'ils s'impliquent. Parce que vous ne saurez rien faire s'il n'y a pas l'autorité de l'État. Comment voulez-vous qu'un concessionnaire qui... Je connais bien Bandro quand il est arrivé il y a une dizaine d'années. On les appuie, on les accompagne parce que Bandro a un impact positif dans la région. Donc, les 3 provinces, Nord, Sud et Maniema. Mais, s'il n'y a pas l'autorité de l'État, s'il n'y a pas de garantie juridique et judiciaire, comment voulez-vous qu'un investisseur puisse venir Je dirais aujourd'hui que la condition pour permettre au Congo de décoller, il faut l'autorité de l'État. Et madame, vous venez de dire, les gens étaient enlevés et on avait fait circuler les images pour les travailleurs de Banro. Vous pensez que quelqu'un viendrait de l'Europe, celui qui a vu comment on a exposé les Sud-Africains pendant toute une semaine dans la forêt? Ça, ça pose un problème. Comment voulez-vous que demain on atteigne les 7 milliards de budget Colombo? Ici, j'ai pris des 20 pages. Nous avons des propositions. Par exemple, le secteur minier. C'est le secteur qui pouvait aider le secteur agricole à se relancer. J'avais même proposé ici que l'artisanat minier. On ne peut pas laisser les gens dans les crises comme ils veulent. Il faut les encadrer. D'ailleurs, Banro a manifesté la bonne volonté d'accepter à céder une partie de ses concessions où il paye les droits superficiels. Mais il accepte à les partager avec, je ne dis pas avec les rebelles, je dis avec les citoyens, les Congolais. Et ce que nous pouvons demander à nos enfants, c'est nos enfants aussi, les Maïmaï, tous ces rebelles, qui reviennent à la raison. On ne peut pas construire ce pays en portant des armes, en faisant des pressions. Qui viendra si Banro quitte aujourd'hui? Et ça sera vraiment un impact négatif sur l'économie de la RDC. Donc, il faut que toutes les autorités s'impliquent davantage, comme a fait le président du Sénat, comme le gouverneur le fait, la société civile, tous les notables, qui s'impliquent de sécuriser Banro. Banro qui est prêt à partager avec qui, il faut l'encourager. C'est rare. Moi, je suis aussi investisseur. Je suis dans l'agriculture et la petite mine. Nous avons des concessions. On a amené tous ces creusers, on les met ensemble, on les dit, respectez les normes. D'ailleurs, comme vous dites, si on dit que quelqu'un est allé creuser avec des armes, le produit, ça devient produit de ça. Ce n'est plus accepté sur le marché international. Nous venons de proposer ici que la mine, c'est le secteur qui va aider à développer les autres secteurs. Et ici, nous proposons que d'ailleurs, tout minier qui viendra en partenariat privé-public, nous l'exigerons que vous avez un carré minier, à côté on vous donne un hectare de produits de faire l'agriculture. Aujourd'hui on n'aurait pas manqué le maïs si Banro avait déjà commencé au Maniema pour cultiver aussi, produire des maïs. Il pouvait les faire en partenariat, nous avons des propositions qu'on a données et ça pouvait permettre au Congo à ne pas connaître de pénurie de produits alimentaires si Banro contenu dans de meilleures conditions de travail.
Alors, Banro dit que des attaques et prises d'otages sont régulièrement rapportées dans cette région. En 2017, il y a un Français qui avait été, enlevé, puis libéré en 2017. En mai de la même année, la compagnie avait suspendu ses activités dans la mine de Namo-Yaoui, voilà, au Maniema. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement provincial s'investit pour sécuriser ceux qui viennent investir dans cette province?
D'après les échos du gouverneur, on trouve qu'ils veulent sécuriser et il a l'obligation de le faire. Et je crois qu'il faut que le gouvernement central s'implique aussi. C'est l'intérêt. Madame, tout ça c'est publié partout. Tu crois que tous les investisseurs qui ont été reçus par les présidents Tshisekedi à Bruxelles seront chauds à venir demain s'il apprend que quelqu'un, Banro, qui a pris déjà 10 ans ici, tous les jours ils sont enlevés? Et je vous dis, madame, en Europe aujourd'hui, Banro payerait même quelques 100 000 pour venir travailler à Nyamoya ou bien à Kamituga, c'est aussi de Kivu. Celui qui est en Europe dira, mieux d'avoir 10 000 dollars en Europe au lieu d'aller voir 100 000, mais dans les conditions où on a vu traiter le Sud-Africain, ça fait peur. Donc, à mon avis, la seule chose à faire aujourd'hui, c'est rétablir l'autorité de l'État. Et c'est ce que le gouvernement central doit faire. S'il ne le fait pas, je ne vois pas, madame, de quelle manière on va sauver ce pays ou développer ce pays.
Alors, le gouvernement promet de négocier avec la firme canadienne pour une éventuelle reprise des activités. Est-ce que vous pensez que cette société accepterait de reprendre les activités si la situation sécuritaire n'est pas améliorée?
J'espère que peut-être Banro va voir quelle est la volonté du pouvoir public, le gouvernement provincial, avec toutes les autorités locales, les amis. Si on lui rassure, il a déjà beaucoup investi. Vous savez, madame, moi, je suis d'ici de Kivu. Je suis au territoire de Walungu. J'ai plus de 2000 hectares partout, de Fonfo jusqu'à Chabunda, Kabare Walungu. Les routes que nous utilisons aujourd'hui, c'est entretenu par Banro. L'impact de Banro est vraiment positif sur l'économie de la province. La sous-traitance qu'utilise Banro, c'est pas seulement la mine là-bas. Donc, tous les camions qui viennent de la Tanzanie, produits pétroliers, les pièces de rechange, au long de cette route, c'est la richesse qu'on est en train de vouloir créer. Donc, le Maniema, le Sud Kivu, doit se mettre ensemble pour tout faire pour que l'autorité de l'État revienne sur terre, que les investisseurs puissent venir. On ne va pas investir seulement dans la ville de Kinshasa. Tous ces milliers d'investisseurs qui s'intéressent aux Américains, Européens, il faut qu'ils viennent sur terre. Et c'est là où il y a la richesse, c'est là où il y a les activités à faire. Donc, la sécurité pour nous, comme entreprise, comme secteur privé, c'est la sécurité des biens et des personnes.
Merci Olivier Moudé-Kereza. Franck Fouamba, fondateur et directeur général de la revue Mining News. Vous êtes cofondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement, également coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Comment vous analysez cette situation, Franck Fouamba?
Merci madame. Bon, le temps est grave. Je vais souhaiter que vous donniez aussi assez de temps que mes prédécesseurs. Je vais aborder le problème politiquement, je vais aborder le problème économiquement et puis socialement. Politiquement, comme mes prédécesseurs ont dit, il faut dire sincèrement que l'État a par rapport à ce qui se passe.
On a un petit souci avec votre ligne. On a un petit souci avec votre ligne téléphonique. Si vous êtes dans une maison, essayez d'aller à l'extérieur pour améliorer la qualité de la ligne Franck Fomba. Oui, ça s'est amélioré.
Ok. Je dis que je vais aborder le problème politiquement, je vais l'aborder économiquement et socialement. Et j'espère que j'aurai aussi un peu de temps comme mes prédécesseurs.
Ne vous inquiétez pas, il y a un chrono.
Oui. Politiquement, il faut dire que l'État a failli. L'État a failli parce que l'État doit sécuriser les investisseurs. Je parle du gouvernement central qui a failli. Et je parle aussi du gouvernement provincial qui a failli en allant négocier illégalement pour qu'une concession, une partie de la concession soit cédée en violation du code minier. Ça ne se cède pas comme ça, selon le code minier. Quand il y a les artisanaux qui occupent un site, le propriétaire titulé du titre, il va au cadastre minier, il va céder la partie qu'il veut concéder, et c'est le cadastre minier avec le ministre de Mines, le gouverneur, qui en déclare une zone d'exploitation artisanale. Le gouvernement provincial a failli. On n'est pas artisanal. Tous les villageois ne peuvent pas être des artisanaux. Tous les villages ne peuvent pas aller creuser sur une montagne parce que c'est du désordre. La loi est claire et détermine comment l'exploitation artisanale doit être faite. Le gouvernement national et provincial ont failli parce qu'ils oublient que le gouverneur dit le chef de l'État n'a pas voulu que le sang coule. Je ne suis pas d'accord en tant qu'historien congolais et en tant qu'historien congolais avec l'optique du chef de l'État et tous mes collègues de la société civile pour partager mon point de vue. C'est que l'or, il faut comprendre que les minerais stanifères, la zone est, c'est une zone qui a été dont les minerais ont été frappés par la loi d'autres Franck, la loi d'autres Franck et d'autres mécanismes dont les principes de l'OCDE, qui à un moment vraiment ont voulu mettre de l'embargo. Il y avait pratiquement de l'embargo et puis on voulait dire que c'était les minerais de sang. Et le gouvernement, au niveau du secrétariat du gouvernement, le secrétariat du ministère des Mines, les gens se sont battus. Et le gouvernement, on sait qu'il allait pour que la situation soit relaxée, que les conditions soient meilleures aujourd'hui. On ne peut pas tolérer que le gouverneur de province et que le gouvernement central aillent négocier avec un homme armé, avec des groupes armés, pour aller exploiter. C'est salir nos minerais. Ça, nous ne pouvons pas encourager au nom de quoi que ce soit. Économiquement, Banro a failli. Nous devons avoir le courage de le dire tout haut. Banro est là depuis 1995-1997. Aujourd'hui, ça fait totalement 22 ans. Quand nous prenons le secteur orifère, nous avons deux grandes entreprises minières. Nous avons Banro et Randgold, qui est aujourd'hui le groupe Barrick. Quand vous prenez dans 10 ans d'existence, dans le Haut-Wélé, Awacha, Doko Durba, quand vous voyez les réalisations de Randgold, de Kibali Gold, et vous comparez ce que Banro a fait pendant 22 ans dans le Maniema et dans le Sud Kivu, vous comprenez qu'il y a la frustration de la communauté. Pourquoi est-ce qu'il y a les groupes rebelles, parfois? Je reviens, là, je prends ce que Claude Ibalan, le coordonnateur du mécanisme mécanisme de suivi des accords d'Addis Abeba, venait de dire dernièrement à New York. Il a dit que nous devons éviter la prime aux gens qui prennent les armes. Comme moi, j'ai toujours dit, nous devons éviter la prime aux voleurs. Il y a des gens qui prennent les armes, ils vont faire de la violence, après on va faire des concessions avec eux. Ils ont pris les armes, et Claude Ibrahim qui a dit que pour combattre ces groupes armés, il faudrait que tous combattent la pauvreté. il y a un problème de pauvreté sérieuse, de pauvreté sérieuse qui se pose dans le Maniema. Et si Banro avait fait le minimum pendant 22 ans, ce que Kibali Gold est en train de faire, ça ne serait pas arrivé tout ce qu'il est en train de connaître aujourd'hui. Kibali a développé, Rand Gold, du Barrick ont développé une mine dans une zone où il y avait aussi des milices de groupes armés. Mais comment ils ont obtenu ce que Marc Bristow a la licence sociale? Ça, en cherchant à investir dans le développement communautaire. Je suis dit le président de la FEC ou le membre de la FEC qui est en train de parler. Il dit, bon voilà, Banro va faire, Banro pourra créer. Nous ne devons pas parler au futur, nous devons parler du présent.
Il a parlé aussi du passé. Il a dit que Banro a beaucoup fait pour le site Kivu et Maniema. Dans la construction des routes, c'est déjà beaucoup.
C'est un homme d'affaires, peut-être qu'il va avoir des contrats de sous-traitants chez Banro, mais nous, la société civile, nous voyons des choses différemment. Nous prenons Banro et nous prenons Randgold. Kibali de Randgold et de Barrick. Kibali a évolué sous le code minier de 2002. Ça fait 10 ans. Banro était exonéré. Banro était sous la convention. Avec trop d'exemptions, trop d'exonérations. Afin qu'il puisse développer le milieu. Qu'est-ce que Banro a fait? Banro n'a rien fait. C'est normal qu'à un moment que la population ait de la frustration. Et les ONG, pendant que je vous parle, il y a des ONG qui sont sur place en train de former, ils étaient en train de former les gens au cahier de charge. Et pour nous aussi, à un moment, c'est une stratégie. Parce que Banro fait partie, à un moment, des sociétés qui ont voulu qu'on puisse changer le code minier. Mais Banro devait avoir honte parce que Banro, j'ai dit, pendant 22 ans, ils sont sous la convention. Les milices. Je suis un Congolais qui connaît l'exceteur. Je compare. Je reprends, je dis, si Banro avait fait pendant 22 ans ce que Kibali Gold Mine, avec Barrick aujourd'hui, Randgold, et avec Randgold aujourd'hui Barrick, sont en train de faire dans le Haut-Wélé, il y aurait moins de problèmes, il y aurait des développements, il y aurait de la richesse, les gens se les partageraient. Les milices, quand ils viennent, facilement. Vous allez comprendre que les milices là ont des complicités dans la population. Pourquoi ces milices ont la complicité dans la population? C'est parce que Banro n'a pas la licence sociale. La licence sociale, c'est l'acceptation d'un investissement par les communautés. Et ça ne concerne pas seulement Banro, ça concerne aussi beaucoup de sociétés qui sont aussi dans Lukatanga.
Et donc, alors, vous comprenez un peu la réaction, oui, de la population ou des miliciens, comme l'a dit la société elle-même qui accuse les miliciens. Vous comprenez un peu cette situation, le fait de mettre cette société en insécurité?
J'y réponds avec ce que Claude Ibalanki a dit à New York. Je réponds avec Marc Bristow a toujours dit. Une fois nous demandons à Marc Bristow, comment tu es parvenu à développer une mine dans une zone où il y avait l'insécurité? Il dit, j'ai essayé d'avoir la population avec moi comme complice. Si vous investissez, le premier actionnaire, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas vous-même, c'est la population, la communauté locale. Est-ce que Banro l'a fait? Banro ne l'a pas fait. La deuxième chose, Claude Ibalanki dit à New York, il dit que les investisseurs, nous devons chercher, parce qu'aujourd'hui, madame, on voit les faits. Quelles sont les causes? Je dis que je ne soutiens pas les groupes, les milices. Les milices doivent cesser de faire ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est du banditisme. Moi, je suis contre le fait que, d'ailleurs, Banro a négocié illégalement, et tout le civil est contre le fait que Banro a négocié illégalement un accord pour céder une montagne à des miliciens. C'est inacceptable.
Merci, Franck Fomba. On va vous redonner la parole. On va vous redonner la parole tout à l'heure, Franck Fomba. Monsieur le gouverneur, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Ariel Claude Camulo, depuis Kinshasa. Pour moi, par rapport à ce sujet, je crois que l'État doit faire montre de sa politique, doit faire montre de la sécurité nationale par rapport à toute la population et par rapport aussi aux étrangers, étant donné que ce groupuscule risque de rendre nuls les efforts du chef de l'État par rapport à sa politique incitative des investissements étrangers. Et donc, il est impérieux que le gouvernement démontre aux nouveaux investisseurs que le climat des investissements est propice.
Monsieur le gouverneur, comment vous répondez à cet auditeur et même aux analyses de tout à l'heure, à l'analyse de tout à l'heure de Monsieur Olive Moudé-Kereza?
Oui, je le comprends que c'est vrai et que le gouvernement central doit faire vraiment encore beaucoup d'efforts pour nous, pour l'intérêt de sa population. Et c'est ce que le gouvernement central a déjà commencé. Et je crois que la semaine prochaine, comme j'avais dit que nous allons nous rencontrer avec la société Banro, le DG de la société est absent du pays, il est en Afrique du Sud.
Et je crois qu'on va se retrouver à Bukavu, où on va peut-être discuter encore. Et si on n'arrive pas à trouver une solution définitive, on sera obligé d'aller à Montréal pour voir des choses là. Mais je crois qu'on trouvera une solution définitive sur place à Bukavu. Et nous allons demander au gouvernement central de faire le nécessaire pour que nous puissions sécuriser la société. Et comme mon frère l'a dit tout à l'heure, effectivement, je crois que j'avais discuté avec Bando. C'est que Bando n'a pas fait beaucoup de choses au Maniema, ça c'est vrai. Et que nous avons parlé avec le nouveau DG, il a dit que c'est vrai, c'est une nouvelle équipe et qu'il vraiment nous encourage à ce qu'ils vont faire le nécessaire pour vraiment terminer et remplir leur cahier de charges. Ça, ils ont promis, c'est une nouvelle équipe qui est là. Bon, l'ancienne équipe n'a pas pu faire ce que mon frère a dit tout à l'heure. Par rapport à d'autres sociétés comme Kibali Maïni. Et ils ont promis cette année, ils ont déjà commencé à financer les routes, ils ont commencé à faire des petites choses, mais je crois qu'ils tiennent à ce que cette année, si l'année prochaine il y a la paix, ils tiennent à respecter leur cas de chance pour la population.
Alors, on a suivi aussi Franck Wamba qui dit que l'État congolais a failli, que ce soit au niveau du gouvernement central ou provincial. Il estime qu'on ne peut pas primer les gens qui ont pris les armes. On voit que vous, au niveau de la province, vous essayez de négocier avec les miliciens pour, selon Franck Wamba, il y a eu même vous avez même signé illégalement un contrat avec ces miliciens.
Non, vous savez, quand nous cherchons la paix, ce n'est pas que Bando a cédé à toute l'étendue de la montagne, non. Bando a cédé une petite partie pour permettre à la population d'exploiter. Et quand vous voyez à Salamabila, il n'y a pas que les militaires, il y a la population, il n'y a pas de travail, ils voulaient travailler.
Bando a cédé à la population ou aux miliciens, monsieur le gouverneur?
Non, à la population. Ça, je souligne bien, c'est à la population. Et puis Bando a promis de faire la découverte quelque part pour la population, comme on l'a fait au Katanga ou ailleurs. Il a promis de le faire dans 3 semaines. Et je crois avec cette interruption, avec cette suspension, peut-être qu'ils n'auraient plus à respecter leurs 3 semaines. Et en dehors, que ce soit, ça serait un peu plus loin, au moins de 6 kilomètres de la concession des bandits.
Alors, vous avez aussi suivi M. Franck Fomba qui dit qu'on ne peut pas demander à toute la population d'aller creuser. C'est quand même un peu compliqué.
Non, ce n'est pas nous. C'est pas nous. Nous, on n'a pas invité la population de venir creuser. C'est eux-mêmes, comme ils n'ont pas du travail. Là-bas, la population était habituée à aller creuser. Et c'est pourquoi on s'est dit la population, vraiment, le nombre est vraiment supérieur. Et c'est pourquoi le service de ces maps est en train d'identifier. Et peut-être ils vont arriver à un moment où ils vont donner les horaires pour dire que bon, mardi, ça sera tel groupe, ça sera tel groupe, parce que s'il y a peut-être 2000 personnes où il n'y a pas une grande partie où ils doivent aller travailler. C'est ça le problème, c'est le problème du travail. Et c'est pourquoi même Bando a commencé pour faire avec cette nouvelle équipe. Ils ont recruté 40 personnes sur place à Salamabila, ils ont fait des examens, et que Bando a promis d'engager au fur et à mesure. Parce que si quelqu'un est engagé, je crois qu'il n'aura pas le temps d'aller encore peut-être creuser, aller à la montagne. Il pourra peut-être se contenter de son petit travail, il pourra nourrir sa famille. C'est ça les petits problèmes qu'on a aussi là.
Et donc, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous étiez en train de négocier avec la firme. Vous nous rassurez que d'ici là, on trouvera une solution par rapport à cette situation?
Je vous rassure qu'on trouvera une solution parce que la société a investi aussi beaucoup. Ils ont beaucoup et ils ont besoin de travailler aussi pour leur investissement. Et je crois que ça annonce un peu bien. Je crois que le problème de la société, c'est la sécurité. C'est normal, tout être humain a besoin de sa sécurité.
Merci.
La sécurité de leur investissement. Ouais.
Merci, M. le gouverneur. Olivier Moudekérez, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Josué Assani Kisulu, activiste du mouvement citoyen Rien sans le peuple depuis la ville de Bukavu. Pour remédier à cette situation, il faudrait s'attaquer aux causes qu'aux effets, car la société Banero en a également sa part de responsabilité. Parfois, la société Banero exerce ses activités dans des sites occupés par des familles locales de creuseurs artisanaux, chose faisant naître les affrontements réguliers entre la dite société et les autochtones. Deuxièmement, la société Banero ne fait pas souvent les dédommagements des creuseurs artisanaux délocalisés d'une carrière d'or. Troisièmement, la société Banero, dans la plupart des cas, n'a n'honore pas des obligations contractuelles à l'égard de la population locale, ce qui fait à ce que les choses tournent au tapis rouge.
Monsieur Modekereza.
Je comprends bien pour la population, c'est normal.
Cet auditeur rejoint un peu l'analyse de M. Francfort, madame.
Exactement. Mais moi, je suis du secteur privé. Je peux vous dire, madame, à un moment, il va être difficile pour les entreprises de répondre favorablement à tout ce problème de la population ou résoudre les problèmes de la population.
Pourquoi ?
Imaginez-vous, madame, dans un village, il y a 200 000 personnes, 100 000 personnes. Et s'ils n'ont pas de travail, ils veulent aller envahir la concession. Comment voulez-vous passer ? Deuxièmement, quand il dit on prend la concession est délimitée. Au niveau des cadastres miniers, il y a des périmètres. On borne, on dit la limite des banneraux, c'est là jusque-là. Et finalement, la population dit nous avons encore besoin d'y aller. Ça va poser des problèmes. C'est ça qu'on dit, garantie juridique et judiciaire. Comment voulez-vous, quelqu'un qui vient du Canada, qui vient de l'Europe, qui vient n'importe où, on lui donne une concession, on dit c'est pour vous borner, mais demain la population envahisse la concession. Donc, ce qu'il faut faire, d'ailleurs, ce qu'on a proposé.
Justement, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous vous proposez comme solution pour éviter ce genre de situation?
Il faut toujours l'autorité de l'État. Il faut permettre à ce que l'administrateur ou le gouverneur, au gouvernement central, délimiter les concessions, les périmètres. Dire à la population.
Ça se fait déjà?
Ça se fait déjà, mais ce n'est pas respecté. Comment on va faire pour faire respecter ça? Deuxièmement, il faut qu'au niveau de la population, comprenne qu'il faut respecter le droit privé. Il faut aussi respecter les concessions, les périmètres concédés. Même si la société, il faut qu'il les fasse. D'ailleurs, nous, on avait proposé depuis longtemps que les mines ne devraient pas être données aux CD comme ça. L'État devrait avoir des parts dedans. C'est pour avoir une richesse. Et l'artisanat minier, il faut qu'on limite les périmètres, qu'on dise, ça c'est l'artisanat. Et si on demande au concessionnaire de céder une partie, c'est une bonne chose, il faut qu'on les fasse. Mais il faut aussi que les gens respectent ce qu'on se convient avec les grandes sociétés. Sinon, personne qui viendra. Je peux vous dire, madame, quand vous prenez les sites qui vous, à partir du Tanganyika Kalemie, sont des zones minières, des concessions riches. Mais il n'y a personne qui vient investir parce qu'ils ont peur de ça.
Parce que la sécurité n'est pas garantie.
N'est pas garantie. Donc, à mon avis, la sécurité, il faut garantir. Et il faut demander, il y a aussi ce qu'on dit, la responsabilité sociétale, d'accord. Il faut que ces sociétés fassent quelque chose. Et c'est pourquoi nous insistons, il faut que dans toute société...
Vous qui minière, connaissez Bandro, est-ce que vous pensez que Bandro respecte cela?
Je connais Bandro, bon, je n'ai pas de partenariat avec lui, mais je pense qu'il fait quelque chose au niveau du site Kivu, il a commencé, mais il ne peut pas tout faire, la société. Mais il a fait quelque chose, je vois au site Kivu, mais il peut encore faire mieux, il peut faire mieux, il peut faire plus. Et je crois que il a des leçons, il va tirer des leçons, il va essayer encore d'améliorer. Et s'il n'améliore pas, c'est difficile.
Merci, Monsieur Olive Modekereza, Franck Fomba, et aussi pour une réaction pour vous qui nous vient de Kindu au Maniema.
Je suis Dexon Hassani depuis Kindu au Maniema. La décision de Bandro est une triste nouvelle pour nombreuses personnes vivant au Maniema en général et en particulier dans les territoires de Kabambare. À mon avis, il y a à boire et à manger dans cette décision, car plusieurs négociations ont été organisées par différents dirigeants du gouvernement provincial du Maniema entre cette société et les miliciens Maïmaï Malaïka dirigés par Cheikh Hassan Mitende. Mais souvent, c'est toujours Bandro qui ne parvenait pas à respecter ses engagements. Il en est de même avec les récentes négociations dans lesquelles Bandro avait accepté de céder certaines collines aurifères aux artisanaux. Mais elle a attendu juste que le gouvernement tourne le dos pour changer les conclusions de ces négociations.
Franck Fomba.
Madame, écoutez, je ne suis pas d'accord avec tout ce que j'en dis. Hein. Je ne suis pas d'accord avec celui qui vient de parler, vient de dire. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que la loi est claire. J'ai devant moi la lettre du 24 septembre du président directeur général de Bandro. Il reconnaît qu'il a été forcé de signer un accord avec le chef milicien Cheikh Atusa Cheikh de Malaïka. Il a été contraint. Et puis après, Cheikh s'est autoproclamé président d'une coopérative et va l'exploiter. Il y a un problème. On ne peut pas encourager ça. Voilà la solution que je propose. Première solution. Le président de la République, chef de l'État, commandant de l'armée, garant de toutes les institutions et garant de la sécurité, qu'il fasse ce qu'il a fait au Katanga. quand il y a eu des simples artisanaux qui envahissaient les sites des TFM, des KCC à Colosie, on a vu dans les lois là-bas, on a vu l'armée intervenir. Mais ici, il y a des miliciens, il y a des civils dehors la loi. Pourquoi est-ce qu'on négocie avec dehors la loi alors qu'on n'a pas bien négocié avec la population? Pourquoi est-ce qu'on envoie l'armée contre les civils, contre les miliciens, dans le Grand Nord Kivu, on ne les envoie pas dans le Sud Kivu, dans le Maniema? On doit faire ce qu'on a fait au Katanga. Si contre les civils, on a envoyé l'armée, on doit aussi envoyer l'armée contre les hommes armés pour les pour sécuriser les investissements des Banro. Deuxième solution, qu'il y ait un audit des investissements et des réalisations. L'audit à laquelle, auquel la société civile va participer. Comme ça, nous évaluons le peuple congolais qui est propriétaire de la terre, des richesses. Madame, je vous rappelle que les minéraux ne sont pas renouvelables. Les minéraux sont... Généralement, la vie d'une mine. La vie d'une mine d'or, elle est autour de 20 et 30 ans. Banro a déjà fait 22 ans.
Alors, troisième solution, on n'a plus beaucoup de temps.
Troisième solution, c'est que il faudrait que localement, les gens comprennent que l'artisanat n'est pas une solution durable et que les mines ne vont pas tout offrir. C'est là que la société doit, comme j'ai dit, doit avoir la licence sociale. La société doit travailler dans l'investissement durable. Il y a les 0,3%. On doit connaître le vrai chiffre d'affaires de Banro. C'est pour ça qu'il y a des audits. On doit connaître le cahier de charges. Qu'est-ce que Banro va faire? On doit savoir oser t'aider. On donne combien d'argent et l'argent va où?
Merci.
Il faut qu'on éduque notre population. Qu'on éduque notre population pour qu'elle comprenne que les minéraux sont épuisables, ne sont pas renouvelables et qu'avec l'artisanat, on ne doit pas s'enrichir.
Merci.
L'artisanat va enrichir les réseaux mafieux et ça ne va, ça va pas profiter à la population.
Merci Franck Fouamba. On va considérer cela aussi comme votre conclusion. Monsieur le gouverneur Augustin Moussafiri, votre conclusion. Mm-hmm. Monsieur Moussafiri, vous êtes en ligne?
Oui, j'en ai.
Alors, quel est votre mot de la fin par rapport à cette situation? Qu'est-ce que vous demandez à la population? Quel message vous lancez à la population?
Bon, je demande seulement à la population de se calmer d'abord, d'être calme, jusqu'à ce que nous puissions terminer notre négociation avec la société Banro. Je crois que d'ici la semaine prochaine, on pourra avoir une suite à donner à cette population. Et tout ce que je pourrais dire à ma population.
Merci, monsieur le gouverneur. Olivier Moudé, à votre mot de la fin.
Le mot de la fin, c'est-à-dire qu'il faut organiser le secteur minier artisanal. Ça fait beaucoup d'argent pour l'État. Il faut que l'État s'implique. Et il faut que l'État récupère tous ces fonds qui viennent de l'artisanat minier. Ça peut aider le budget pour avoir les moyens de payer les enseignants. Sinon, il n'y a pas d'autre solution.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à Guy Maté qui a réalisé cette émission avec le concours de Donna Madimba, Alex Axel Gonto a supervisé ce magazine. Merci à Lengoy qui était à la mise en onde au micro. Kelly Nkouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.